Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet.
J'ai une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
Il a une grande sensibilité dans sa musique.
C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique.
Quatrième épisode, message personnel.
Et lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à personne.
Il avait un charme incroyable.
Le moment dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
J'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant.
Michel est un mélodiste fantastique.
Ses chansons sont intemporelles.
Michel est quelqu'un de très actif.
Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très très fin.
Il aimait bien dire des bêtises.
Vos noms, prénoms, âge et qualité ?
Alors, Michel Berger.
Oui.
Et qualité ? Chanteur, auteur, compositeur, ACI.
Prouvez-le.
On en a connu des souffrances. Et combien de matins heureux. Des moments sans importance, comme tu veux, comme on a appelé la musique, en mettant notre cœur à nu, en priant que l'instant magique soit revenu. Impossible. Et cette violence dans mes doigts, quelle inconscience effacée quoi. Ces mots qui dansent enfouis en moi, qui parle de toi.
On peut considérer Michel Berger et Véronique Sanson comme des jumeaux musicaux. Ils se passionnent tous deux pour la musique américaine et ils aiment les mêmes groupes. Leur gémelléité est telle qu'on a eu de cesse de se demander qui avait influencé l'autre. S'ils sont musicalement proches, Michel Berger et Véronique Sanson ont pourtant des caractères opposés.
On en a connu des orages.
J'ai côtoyé Véronique à plusieurs reprises et je les ai vus ensemble, Véronique et Michel. On sentait vraiment qu'il y avait une connivence entre les deux.
Patrick Haas, son cousin.
Et sur le plan artistique, émotionnel, amoureux, Véronique est une femme forte, qui avait une forte personnalité, fragile aussi par certains côtés, mais elle lui donnait aussi un peu de fantaisie. Comme je l'ai dit, il venait d'un milieu un peu bourgeois, conformiste, même si sa mère l'a beaucoup stimulé dans sa carrière musicale. Mais Véronique, c'est une famille d'artistes aussi, et elle avait peut-être davantage de fantaisie que lui.
Véro aime faire la fête, c'est vrai.
François Bernheim.
Elle aime sortir, elle aime même disparaître carrément pendant quelques temps. Elle se balade, etc. Lui, Michel, enfin, il se couche jamais tard, il a une discipline de vie. Mais d'ailleurs, c'est pas une discipline, c'est pas celui qui le veut, c'est son tempérament. Il est comme ça, il prend pas beaucoup de plaisir à durer jusqu'à 2 du mat et à boire et fumer, il s'en fout, il est dans sa musique. C'est un mec dans l'esprit assez bourgeois, hein, mais en même temps, là où il ne s'exprime pas la nuit, on peut pas lui en vouloir de ne pas faire la fête, il est totalement révolutionnaire et déchiré quand il compose quelque chose, quoi. Véro compose à 3h du matin, Michel il doit composer à 9h du matin.
Pour être totalement différent, ils étaient totalement différents l'un de l'autre.
Bernard de Bosson, son producteur et ami.
Avec pourtant un tronc commun qui était leur éducation. On va dire cette éducation bourgeoise, traditionnelle, conservatrice, peut-être un peu. Mais justement, avec tout ce que ça peut avoir un peu d'énervant pour des gens qui ont une puissance créatrice formidable et qui ne se sont pas toujours à l'aise dans un carcan ou dans un truc comme ça. Bien que Michel ait quand même fait des études remarquables. Alors c'est vrai que Michel était beaucoup plus cadré, beaucoup plus posé. Sa folie, il l'avait beaucoup plus dans sa musique que dans sa vie. Alors que Véro, c'est le contraire. Véro, c'est une cinglée, elle voulait faire de la moto, elle faisait plein de trucs. Bon. Et c'est vrai qu'ils étaient très, très différents l'un de l'autre. Et que, effectivement, Véronique, elle était difficile à contrôler. Michel avait beaucoup de mal à faire ce qu'il voulait. D'abord, pour l'avoir à l'heure, c'était toujours des problèmes. Et c'est en cela que Michel, quand il a commencé à travailler avec elle et qu'il a décidé, il pesait de toute son autorité, de toute sa rigueur, parce que Michel était quelqu'un d'incroyablement rigoureux, toute sa rigueur sur Véro, que ça énervait profondément, certainement. Alors, de temps en temps, il devait y avoir, bien sûr, des coups de gueule ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression qu'il se déchirait beaucoup. Hein. Simplement, Michel l'empêchait de faire plein de trucs qu'elle aurait voulu faire et qu'elle pouvait pas faire parce qu'il était là pour remettre un petit peu cette magnifique jeune femme avec un talent absolument invraisemblable sur les rails. There's a place I can get to where I'm safe from the city blues. And it's green and it's quiet. Only trouble was I had to buy it. And I'll do anything I got to do. Cut my hair and shine my shoes and keep on singing the blues. If I can stay here in Johnny's garden. La rencontre avec Steve, c'est un truc de... Bon, il faut vous dire que chez Barclay, Michel avait rencontré là-bas Ahmet Ertegun et Nessu Ertegun. Et quelques années après, j'ai vu arriver à Paris Ahmet Ertegun, qui était toujours, qui allait arriver avec une cohorte de très belles jeunes femmes autour de lui. C'était un Eddie Barclay, mais au niveau mondial, voilà. Et partout où il arrivait, tout le monde venait voir Ahmet, qui était quand même un personnage totalement solaire, invraisemblable et magnifique. Et il avait un jeune garçon avec lui, le petit mec qui était là, et on s'est retrouvés tous les deux. Moi, lui, il était en jean, machin, et on y a un dîner, moi, on était dans un restaurant qui était sur la montagne Sainte-Geneviève, et un restaurant où on buvait, on mangeait des bonnes viandes, on buvait du vin sympathique, vous savez, des pots de vin, etc., etc. Et il y avait une table de 15 personnes, et Steve était dans un coin, et moi aussi. Et moi, j'arrivais frais et moulu de ma journée de chez Barclay, j'étais habillé en jeune cadre dynamique, vous savez, avec mon petit blazer, ma cravate, mon charron. Et ce qu'il ne savait pas, j'étais aussi cinglé que lui dans la tête, mais ça, il l'a découvert après. Et puis, au bout d'un moment, la chaleur communicative d'un banquier et le Beaujolais nouveau aidant, à un moment, il était en face de moi, on se parlait. Moi, je commençais à me débrouiller un peu en anglais. Et puis, à un moment, ce mec, je savais qui c'était. À un moment, je le regarde, je lui dis, mais attends, je n'ai pas vendu de beurre salé aux Boches pendant la guerre, mais pourquoi tu me fais la gueule comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est senti complètement agacé. Mais pas du tout, pas du tout. Puis finalement, on a décidé qu'on se barrait, on est parti, on est revenu dans sa chambre d'hôtel. Il a pris sa guitare accordée à l'américaine en open tuning, ils appellent ça, je crois. Et il m'a joué de la guitare pendant toute la nuit, on a discuté. Et là, il est né un espèce de truc entre nous incroyable, ce qui fait que après, il venait à Paris me faire entendre des mix, des trucs comme ça. Et on parlait des heures, quoi, des heures. Et je monte la maison, donc. On fait le premier disque de Véronique. On le sort en mars 72. Et lui, il vient en février. Et il avait 3 jours off dans une tournée qu'il faisait avec son groupe de l'époque, Manassas. Et il me dit, est-ce que tu auras le temps? Si je viens à Paris, on aura le temps de se voir. Je dis, oui, bien sûr. Donc il vient, il descend au Georges V. Et il vient aux Champs-Élysées dans mes bureaux, et puis il arrive pour l'heure de déjeuner, vers genre midi 20, midi. Et puis, ah bon, on s'embrasse, machin, et il me dit, et alors, what's cooking on? Qu'est-ce qui se passe en musique? Je lui dis, écoute, je vais te faire entendre. J'avais, à l'époque, c'était évidemment du vinyle, j'avais un 30 cm en étiquette blanche. Et je lui dis, voilà, on a signé une artiste, je vais te faire entendre. Et je démarre le truc, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Hein. C'est juste un bout de cire noire, un peu rond quand même. Et une étiquette blanche, et je lui fais entendre Amoureuse, et il a à peu près la même réaction que moi dans le studio, quoi. Le mec, il me dit, mais j'ai jamais entendu ça. Mais il me dit, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Il n'y a pas une Américaine qui chante comme ça. J'ai dit, attends, t'es gentil, il y a quand même Johnny Mitchell. Je lui ai dit, je te remercie, j'ai vécu avec les deux. Et voilà, et on part déjeuner. Et lui, toujours en plein dans ce truc-là. On revient de déjeuner, on avait un ascenseur, et on était au deuxième étage. On sort de l'ascenseur, qui rentre dans l'ascenseur avec un photographe qui était Jean-Pierre Leloir, Véronique Sanson, qui allait faire son premier reportage photo. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Alors s'il y avait de la télévision, je vous ferais mon imitation de Tex Avery, mais c'était vraiment Tex Avery, quoi. Les yeux, vous savez, qui partent devant, machin. C'était, il y a eu une espèce de courant électrique entre deux, instantané. Alors on est rentré dans mon bureau, machin, là. Puis voilà, puis ils se sont jamais revus. Et lui, il est reparti dans sa, faire ses tournées, ses trucs. Et puis, il revient au mois d'octobre. Entre-temps, on avait sorti l'album, nous. Et là, on travaillait déjà sur le deuxième album. Et Michel me dit, écoute, je ne veux pas trop en parler à Véro, machin, mais tu vois, ce serait super. On va aller voir le concert de Steve, évidemment, et tout. Mais s'il reste un ou deux jours, t'imagines s'il pouvait venir faire juste un coup, petit coup de gratte, ce serait formidable. Ça donnerait un petit plus à l'album. Et il me dit, organise ça. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Donc, il vient dîner, et puis je lui dis, tu sais qu'il y a Véronique Sanson. Ah oui, oui. J'ai dit qu'elle enregistre, si tu veux, on passe au studio et tout. Alors, on est passé au studio. Il est resté 2-3 jours à Paris. Il est venu avec sa guitare, il est venu avec son percussionniste, Joulala aussi. Et il a dû faire un petit coup de basse, surtout, je ne sais même pas si on l'a gardé, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés.
Find the cost of freedom, buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down. Find the cost of freedom, buried in the ground.
Ça va être le coup de foudre très très vite entre eux.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Stills va vraiment poursuivre Véronique de ses assiduités. Stephen Stills, à l'époque, il faut voir que c'est une rockstar dans tout ce qu'elles peuvent avoir d'incroyablement libre. C'est dément. Il est donc à la tête de Crosby, Stills, Nash & Young, dont il est malgré tout le leader d'un groupe qui a quatre individualités incroyables. Ce sont à l'époque les Beatles américains. Ils sont la voix de la génération de Woodstock. C'est des superstars incroyables. Et Stephen Stills, à l'époque, il est l'équivalent d'un Frank Zappa ou d'un Jimi Hendrix. Hein. Il faut, par la suite, sa carrière et sa vie ont connu des soubresauts. Donc, on a du mal à se projeter dans ce qu'il était. Mais donc, il incarnait le guitar héros, la rockstar. Personne ne pouvait rien contre lui sur toute la planète. Hein. Donc évidemment, ça devait être invraisemblablement pour une musicienne comme Véronique, incroyablement attirant.
Comme je l'imagine, il sourit derrière. Comme je l'imagine, il pense bien. Comme je l'imagine, il pourrait même être celui qui sera l'homme que j'aime. Comme je l'imagine, et comme toujours, il va près des gens qui aiment.
L'année 72 pour Michel Berger, évidemment, va être très difficile puisque c'est l'année du départ de Véronique Sanson sans qu'elle le prévienne.
Mathias Goudot.
Il se trouve qu'il a fait un premier album Amoureuse qui a plutôt bien marché, en tout cas qui va marquer les esprits énormément dans ce qu'il a de révolutionnaire. Et puis il va faire un deuxième album pour Véronique Sanson. On est en octobre 72. Ils ont tellement créé ensemble que ça a été une émulation et donc Véronique Sanson, elle a beaucoup de chansons et qu'elle n'a pas toutes mis dans le premier. Et puis, entre-temps, elle va écrire aussi. Et notamment, elle va écrire des chansons pour celui qu'elle a rencontré entre-temps. Et Michel Berger n'est évidemment pas au courant, qui est Stephen Stills, qui est un grand guitariste de l'époque et qu'elle aura rencontré dans sa maison de disques, puisqu'il a la même maison de disques qu'elle, via Bernard de Bosson, qu'elle aura vu en concert même. Elle aura été séduite par le personnage. Et il se trouve que pour le deuxième album, Michel Berger va avoir cette idée que l'on peut juger incongrue après, évidemment, mais sur le moment qui est très très bien, c'est de faire venir ce Stephen Stills en studio. Donc ils vont se retrouver tous les trois en studio, sans savoir évidemment le drame qui va se tramer quelques jours plus tard.
Michel Berger et Véronique Sanson,
Yves Bigot,
ont prévu de se marier. Ils vont vraiment s'installer ensemble confortablement pour la première fois de leur vie, même s'ils partagent déjà l'appartement de l'avenue de New York. Ils vont s'installer rue de Prony. Et ils vont visiter pour choisir un matin, vers 11h, pour choisir la couleur de la moquette. Ils se donnent rendez-vous le soir pour dîner chez les parents, parce que les parents sont toujours dans le jeu. Et Véronique dit « Bon, je vais acheter des cigarettes, on se retrouve ce soir. » Et comme l'histoire de « je vais acheter des cigarettes et je disparais », ben là, c'est vrai.
Pendant 3 jours, personne ne va savoir où elle est partie, puisqu'il semblerait qu'elle soit partie juste en prenant son passeport, peut-être repasser chez elle, en tout cas prendre son passeport pour prendre un avion pour les États-Unis. Et même les parents de Véronique Sanson ne sont pas où elle est. Ils feront jouer des réseaux importants, notamment ceux de l'époque de la résistance, puisque c'était des grands résistants, pour retrouver la trace de Véronique Sanson, puisqu'elle ne laisse aucun signe de vie, en tout cas, et encore moins de vie amoureuse pour Michel Berger.
Elle part sur un coup de tête, comme ça, sans rien dire à personne. Elle part et elle disparaît. Michel est totalement effondré. On cherche Véronique partout. Il va falloir une semaine pour la retrouver via l'ambassade de France, le consulat à New York, etc. À l'hôtel Carlyle à New York, où elle est avec Stephen Stills, et où elle dit « Écoutez, vous êtes gentil, mais je suis là de mon propre gré, donc foutez-moi la paix. » Tout le monde pense qu'elle a été enlevée ou elle est tombée dans une secte. Il faut savoir que c'est l'époque où il y a des membres de Fleetwood Mac qui ont été enrôlés par des sectes. Tout le monde craint tout ce qui peut arriver à ce genre de personnalité qui vit dans le monde de la musique, avec tout ce que ça a de marginal à l'époque et de potentiellement dangereux.
J'ai suivi le temps qui passe. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Quand tu es là, je suis à ma place. La vie fait du bien, elle efface nos chagrins. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, je lâche tout, j'abandonne. Là, si tu t'en vas, si tu t'en vas, sombre et je les raisonne. Voilà. Et si c'est ça l'amour, de piller, voler, si c'est ça l'amour, de souffrir, détruire, aime-moi. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, le monde entier s'écroule sur moi. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, je sens la mort qui me touche du doigt. Notre vie dure ce qu'elle dure, et les grands moments se mesure bien. Le bonheur avait pris figure, mais je ne suis plus vraiment sûr de rien. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, je suis vraiment seul au monde sans toi. Si tu t'en vas, si tu t'en vas, ma vie en une seconde s'arrête là, s'arrête là.
Michel Berger, tout pour la musique.
Michel est absolument effondré.
Yves Bigot
perd pas loin de 10 kilos alors que déjà il n'était pas épais. Ne sort plus de l'appartement de Prony, il est totalement prostré. 3-4 de ses amis proches vont le voir tous les jours, essayer de le faire manger, de lui remonter le moral, etc. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Tout le monde a peur qu'il se suicide ou qu'il se laisse dépérir et mourir.
Mais Bernolk et moi, on habitait chez Berger quand elle est partie.
Marc Kravchik, son ami.
Parce que Michel, à l'époque, on avait très très peur qu'il fasse une connerie irréversible. Ah oui, il était mal, quand même. Il avait un superbe appartement dans le 17e arrondissement, tout neuf, refait à neuf, piano Steinway blanc. À l'époque, je ne pouvais même pas imaginer comment ça coûtait. Et ah ouais, il avait fait fort. Et elle s'est sauvée en deux secondes.
Alors c'est sûr que pour Michel Berger, le départ de Véronique Sanson, c'est un drame total.
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
C'est un drame parce que c'est son amour de jeunesse. C'est l'amour que l'on garde toute sa vie, je crois. C'est un amour formidable et qui, en plus d'être un amour personnel entre deux êtres humains, c'est un amour entre deux artistes créateurs. Il avait trouvé ça... muse, mais plus qu'une muse, c'était des vrais échanges, c'était pas quelqu'un qui agissait ou quelqu'un qui... C'était vraiment dans les deux sens. Et puis elle, c'était une vraie roqueuse, quoi. Et donc lui, il suivait pas, entre guillemets, c'est un peu dur de dire ça, mais je pense que c'est la réalité, selon tous les témoignages qu'on peut avoir. Et puis qu'elle va choisir de partir avec un roqueur. Et là où Michel Berger est dévasté, comme on pourrait tous l'être d'ailleurs après une rupture aussi brutale, puisqu'elle part sans aucune explication, c'est justement... qu'elle part sans explication et sans donner le moindre signe pendant plusieurs jours. Évidemment, sans faire dans le pathos, mais on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le père qui part sans explication. Est-ce qu'il y pense à ce moment-là ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est forcément un écho dans la tête et dans le cœur de Michel Berger. Une nouvelle fois, il est complètement abandonné. D'ailleurs, des gens de sa famille, de Michel Berger, me diront qu'il n'est pas hanté par la mort. Michel Berger, il est hanté toute sa vie par l'abandon. Voilà, donc deuxième abandon dans sa vie, c'est une catastrophe pour lui. Il était en train de finir l'album de Véronique Sanson, il reste des mix. Hein. Une fois qu'on a enregistré des voix, on les mélange ensemble, c'est ce qu'on appelle mixer, on met la guitare plus fort, moins fort. Donc elle est partie, il souffre comme un homme abandonné, créateur abandonné encore plus, qui a perdu... sachant que pour lui, la musique, c'est son oxygène. Il perd la personne, il perd la moitié de son oxygène, quoi. Il va devoir continuer à bosser avec la voix de son amoureuse, puisque c'était le titre de l'album, qui est, enfin du premier album en tout cas. Il s'enferme dans son appartement rue de Prony, qui est d'ailleurs l'appartement qui, quand on ouvre la pochette de l'album Cœur brisé, on voit un appartement où il est tout seul, un appartement vide. C'est l'appartement dans lequel il devait s'installer, ils s'installeront jamais. Ben, y a des raisons d'être dévasté, d'autant plus qu'on est un créateur sensible et complètement à fleur de peau, d'autant plus quand on espère avec son double artistique continuer à créer, continuer à faire des succès, parce qu'il a quand même, encore une fois, révolutionné la chanson française avec Véronique Sanson. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Quoi, c'est anti-naturel, il ne faut pas que ça s'arrête, ces choses-là. Véronique Sanson, avec son caractère, avec ses qualités mais aussi ses défauts, va le quitter du jour au lendemain pour un rocker, un vrai, qui lui fera pas que du bien d'ailleurs. Et donc Michel Berger va être marqué au fer rouge par ce départ, ça c'est une certitude. Et tout se lit dans ses chansons, puisque cet album qu'on appellera Cœur brisé, parce que sur la pochette il y a un cœur qui est scindé en deux, toutes les chansons ont des titres en tout cas et des paroles très évocatrices du départ, de la souffrance, de peut-être la volonté de disparaître. Certains amis proches qui l'ont beaucoup entouré à l'époque l'ont dit. Il se trouve qu'il sera quand même très entouré, ça montre bien qu'il était... très dévasté, il va être entouré, effectivement, sa maman va être présente, Franca va être présente, ce qu'on ne dit pas souvent, et une bande d'amis aussi, les 4-5 amis qui vont être très très proches. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Comme il fera toujours tout au long de sa vie, de la musique, et il va se plonger dans la musique.
J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Soir, je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Elle me regardait sans me voir, elle me souriait sans savoir. Même au soleil, je me sentais seul dans le noir. J'ai bien cru ne plus jamais sentir l'odeur des sapins bleus, bleu gris, je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Je pleurais du matin au soir et j'avais perdu tout espoir. Ma vie entière était bercé par le hasard. Et maintenant, la vie comme une ombrelle maintenant m'a repris sous son aile et je n'aime qu'elle comme avant.
bien cru ne plus jamais danser devant le feu les soirs d'hiver. Je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Elle me regardait sans me voir, elle me souriait sans savoir. Même au soleil, je me sentais seul dans le noir. J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Le soir, je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien.
En 1973, le premier album de Michel Berger paraît chez Warner. Son titre, Michel Berger. L'album sera surnommé « Cœur brisé » à cause de sa pochette affichant un cœur coupé en deux. La plupart des chansons parlent de séparation et ont été écrites bien avant le départ de Véronique Sanson. Quand on lui demandera s'il est visionnaire, Michel Berger répondra que c'est l'inconscient qui s'est exprimé. Véronique Sanson et Stephen Stills se marieront le 14 mars 1973 en Angleterre.
Notre amie Véronique, elle revient en France chez ses parents en disant « voilà, je vais me marier ». Et Steve Stills est arrivé, il a été s'acheter un costume chez Cardin, il s'est mis une cravate, il a acheté des gants beurre frais pour venir demander la main de Véronique à ses parents.
Bernard de Bosson, son ami et son producteur.
Je me souviens d'une séquence absolument invraisemblable qui a eu lieu dans sa suite au Georges V, où ils étaient tous les deux sur une espèce de liseuse, canapé, appelez ça que vous voulez, Louis XVI. Et puis de chaque côté, il y avait un fauteuil, dans l'un, il y avait Madame Sanson. Et puis de l'autre côté, il y avait Bernard de Bosson. Et je leur ai dit à tous les deux, et ça a eu de l'importance après, parce que Steve m'a dit des choses sympathiques à ce sujet-là quand ils ont divorcé. Je leur ai dit, vous n'avez aucune raison autre que fiscale de vous marier. Vous voulez vivre ensemble, marier, vivre ensemble. Mais si vous vous mariez, c'est une connerie. Enfin, bref. Il vient le lendemain, je me souviens, j'étais en train d'écouter un album d'un groupe d'Europe qui s'appelait Triangle. Et ma secrétaire me dit, il y a Steve Stills qui est là, qui est très énervé, il veut absolument vous voir. Donc je leur ai dit, bon, vous laissez-moi un instant. Et Steve rentre, très énervé. Et il m'a mis une baïonnette sous la gorge, en me disant textuellement, « Don't mess around with me, Jim. I want to get that chick, and I'm going to get that chick, whether you like it or not. Occupe-toi de tes oignons, en gros, je veux cette fille, je l'aurai, que ça te plaise ou pas. » Je lui ai dit, tu feras ce que tu veux, mais je te dis, vous faites une connerie. Et là, il s'est calmé, il est parti, bon. Et puis, de très nombreuses années après, bien après le divorce d'ailleurs, puisque c'était en 87, à l'hôtel, il y a eu un coup de fil, où j'avais un message de rappeler M. Stills en Californie, avec le décalage horaire, je l'ai rappelé, et il venait d'apprendre que je quittais Warner. Et il était dans tous ces détails, il m'a dit, Bernard, il faut que je te dise une chose, t'as été le seul qui a eu le courage de nous dire des choses, qu'il fallait pas se marier, etc., etc., etc. Et je te remercierai jamais assez. On te doit beaucoup, enfin, adorable. Hein. Bon.
Il se trouve que 5 mois après son départ inexpliqué du studio, dans lequel il était en train d'enregistrer le deuxième album,
Mathias Goudou.
Véronique Sanson va se marier et Michel Berger, donc on est en mars 73, et Michel Berger va la prendre par les journaux. C'est-à-dire que lui qui devait se marier avec Véronique Sanson se retrouve complètement abandonné. Il saura qu'elle est partie avec un autre. Et il apprend effectivement que Véronique Sanson va se marier en Angleterre. Un mariage fastueux dans lequel il y a effectivement d'autres stars du rock'n'roll. Il se trouve qu'à cette époque, et ça, Véronique Sanson, mais aussi Violaine, sa sœur, l'ont raconté, Véronique Sanson a failli ne pas se marier pour venir retrouver Michel Berger. Alors dans la question dramaturgie, là on a un peu la totale, hein, c'est une très très belle ou dramatique histoire. Il se trouve que juste avant le mariage, elle va dans les toilettes, elle n'est pas très bien, elle hésite à passer par la fenêtre pour s'enfuir, pas à sauter par la fenêtre, attention, à s'enfuir en tout cas. Elle est avec Violaine et Violaine, voilà, il semble lui dire, mais il faut être raisonnable, enfin aussi, si tu as changé, t'es engagé, mais en tout cas, les deux l'ont raconté, donc il n'y a pas de raison d'en douter, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que Véronique Sanson a regretté déjà, en tout cas, son amour avec Michel Berger.
C'est ma faute, j'ai tout gâché quand je te laisse.
Puisque Véronique Sanson et Michel Berger sont séparés, ils se parleront dorénavant par chansons interposées.
Si on veut faire une digression sur l'amour entre Michel Berger et Véronique Sanson, qui aura duré, c'est évident, sûrement après leur rupture, en tout cas, un respect mutuel incroyable. Est-ce que c'est des regrets du côté de Véronique Sanson ou est des regrets du côté de Michel Berger? Ça, personne ne pourra le dire. C'est clair qu'ils se parleront par chansons interposées. Ça, il y a peu de doute, même si, effectivement, certains diront qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chansons. Ils n'ont pas complètement tort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un amour de jeunesse reste tout le temps formidable. Donc, il est sûr qu'il y a une rupture et une telle dureté dans le départ de Véronique Sanson que cet amour espéré restera dans leur tête à jamais. Est-ce qu'il aura été, ça personne ne peut le dire, est-ce qu'il aurait été aussi bien qu'ils ne l'imaginaient les deux en étant séparés? Ça, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il a été aussi fort, en tout cas, dans la tête de Michel Berger que certains veulent raconter après sa rencontre avec France Gall? Ça, je pense que personne ne le sait plus que Michel Berger. Il se trouve que ce qui est clair, c'est qu'elle restera comme quelqu'un d'important dans sa tête.
Michel Berger et Véronique Sanson, ça va être les Tristan et Iseult, les Majnoun et Layla, les...
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Héloïse et Abélard, hein, de leur génération, avec ce dialogue en chanson qui ne va jamais cesser entre eux, où ils vont s'envoyer des messages à la fois de culpabilité, d'amour éternel, de souffrance. Pour moi, en tous les cas, la plus touchante, aboutie, incroyable, qui devrait être un classique, c'est « Seras-tu là ?», qui est une chanson, honnêtement, moi, chaque fois que je regarde Michel chanter cette chanson à la télé, j'ai beau l'avoir vue des centaines de fois, ça me fait le même effet. À chaque fois, c'est bouleversant, parce qu'on sait quelle est l'authenticité et la vérité de ce qu'il chante et de ce qu'il ressent, et que ça passe. Qui est un truc qui arrive assez rarement dans la musique en France, alors que c'est permanent dans la musique anglaise et américaine, ou britannique et américaine, que j'aime, ce sentiment direct là, qui est le truc qui a été communiqué par le blues à l'origine, hein, mais qu'ont repris tout le monde. Ben, en France, c'est assez rare. En France, on a toujours l'impression qu'il y a cette espèce un peu de distance intellectualisée, ou de, j'ai du mal à dire, de manque de sincérité, parce que c'est sans doute injuste vis-à-vis des interprètes, mais là on sent de l'émotion brute et authentique, pas feinte. C'est-à-dire la manière dont il baisse les yeux à un moment, dont il se mord les lèvres à la fin, dont il s'est... Je veux dire, c'est incroyable. Parce que je connais Michel, je connais un peu Véronique aussi, mais parce que je connais Michel et que je connais France, ça me bouleverse chaque fois que je vois ça. Donc il y a ce dialogue sans arrêt, et ça crée la légende de Michel et Véronique.
Et quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde l'air,
Michel Berger, tout pour la musique.
Il se trouve que des années plus tard, Michel Berger et Véronique Sanson vont se retrouver. Semble-t-il, ils ne se seraient jamais revus avant.
Mathias Goudou.
Semble-t-il. Mais ils vont se retrouver sur un plateau de télévision. Et là, la chanson que chante Véronique Sanson sur ce plateau est clairement l'expression de ce qu'elle a regretté, ou en tout cas de son histoire avortée avec Michel Berger. C'est une évidence, c'est un message qu'elle a voulu lui envoyer, c'est sûr. Et Michel Berger va prendre la parole après cette chanson pour dire que lui, sachant à peu près composer des chansons et en écrire, il trouve que c'est l'une des chansons d'amour les plus fortes, en tout cas, qui n'a jamais été écrite. Il se trouve que cette chanson, elle parle de elle et de, semble-t-il, son regret, en tout cas, que cette histoire... d'avoir interrompu cette histoire de manière aussi brutale, et qu'elle finit en disant que ta douleur efface ta faute. Je pense qu'elle se parle à elle-même à ce moment-là.
Elle-même, d'ailleurs, elle s'envoie à elle-même son espoir de rédemption. Hein. Ta douleur efface ta faute. Elle espère que ça puisse être vrai, pauvre maudit.
Il y aura eu à ce moment-là une reconnexion, c'est évident, entre les deux, artistique bien entendu, et pas autre chose. Mais il y a la suite de leur histoire qui rebondit un petit peu là. Je ne suis pas sûr qu'il soit resté amoureux, mais c'est comme un amour d'enfance, en tout cas, que l'on garde quelque part, de toute façon, qui ne s'efface jamais, parce qu'il est resté beau.
Thank you. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais tout le monde fait des erreurs. Mais tout le monde ne fait pas des erreurs comme moi. C'est-à-dire des graves erreurs. Très graves.
Véronique Sanson.
Et moi, j'ai toujours été mortifiée d'avoir quitté Michel. Je n'ai pas du tout envie de vous parler de ma vie privée. Ce n'est pas le but. Mais c'est vrai, quand même, que j'ai toute ma vie regretté d'avoir quitté Michel. Mais ça a quand même donné des jolies chansons pour lui et puis pour moi aussi, puisqu'on ne se parlait que par disque. Mais c'est merveilleux, ça. C'est comme une lettre, comme dans les temps anciens où il y avait des bateaux qui mettaient 3 mois pour arriver à leur destination. Et puis je me disais, moi, quand les amoureux s'écrivaient, il te fait attendre, mais incroyablement longtemps pour avoir une réponse ou pour avoir quelque chose. Et nous, ça nous faisait beaucoup plus de temps. Parce qu'un disque, ça met plus que 3 mois. Et donc, on s'écrivait par disque interposé. C'était surtout pour dire des choses, pour se dire des choses. Se dire des choses vraies, se dire des choses pures, se dire des choses formidables et pudiques et magnifiques. Et on l'a fait.
Oui, si délicat dans sa tendresse, si raffiné dans ses caresses, que j'ai tenu dans mes bras quand il avait besoin de moi. Je l'ai quitté pour d'autres mains, pour des briseurs de destin et des empêcheurs d'exister. Bien fait pour moi. Si vous saviez comme je l'aimais, plus qu'aucun autre je l'admirais. Depuis dans un brouillard, je ne sais plus où je vais. Et je me rapatine un petit pas, et je boude le revoir pour apaiser mon désespoir. Je voudrais fuir vers d'autres nuits, et j'ai chanté pour lui, nos souvenirs qui nous ressemblent et qui nous hantent, qui s'en vont vers le soleil.
Moi aussi, je me perds dans le mystère des rues la nuit, je crois. Entendre au loin comme un appel, un cri, c'est ton cri, c'est ma vie. Et tu chantes ton remords, moi c'est mon regret qui me poursuit. Je sens revenir les paroles sur mes mélodies. Aime-moi aussi, en mi. Tant d'amour perdu, tant d'émotions inconnues. Leurs visages dans lesquels je lis
tant d'amour, tant de solitude. Tant d'amour, tant de solitude.
En cette année 1973, Michel Berger termine la production du deuxième album de Véronique Sanson. Et puisque désormais ils communiqueront par chansons interposées, Michel Berger va lui adresser ses messages personnels par l'intermédiaire d'une jeune chanteuse, Françoise Hardy.
Il est venu chez moi, j'habitais à l'époque dans l'île Saint-Louis, et j'avais un piano.
Françoise Hardy.
Et il m'a joué la mélodie avec le texte qu'il avait écrit dessus de messages personnels. Après m'avoir chanté et joué cette chanson, il m'a dit ce que j'aimerais, c'est que ce soit toute la partie chantée soit précédée d'une longue partie parlée et que ce soit toi qui l'écrive. Par contre, ce qui a été difficile, ça a été de trouver le titre de la chanson. Alors, il m'a chargé de le trouver et je m'y suis consacrée pendant 3 jours entiers, mais j'y pensais même la nuit, quoi. Ça, c'était vraiment du plein temps. Et je lui ai proposé plusieurs choses qui ne m'emballaient pas moi-même, dont je savais moi-même, mais c'était pour avoir l'air, enfin pour qu'il voit que je cherchais. Et puis quand finalement j'ai trouvé « Message personnel », j'ai su tout de suite que c'était un bon titre et il a réagi immédiatement de la même façon.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi. Nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste.
Message personnel, Françoise Hardy. Prochain épisode, Michel Berger, tout pour la musique. Ce sera la semaine prochaine, toujours à la même heure. Et ce sera le 5e épisode à pas de 2.